VOA Afrique, les infos. À Washington, Bagassi Koura.
Bonjour à tous, il est 13h à Abidjan, 14h à Bangui et en Centrafrique. On commence par l'actualité burundaise. Sans surprise au Burundi, Pierre Nkurunziza est officiellement candidat à la présidentielle du 26 juin prochain. Le président sortant a déposé sa candidature ce matin malgré les manifestations depuis 2 semaines dans le pays. Nicolas Pinault.
Oui, le président burundais s'est rendu ce matin à la Commission électorale nationale indépendante. À son arrivée, Pierre Nkurunziza a promis que les manifestations, devenues selon lui une insurrection, seraient maîtrisées d'ici peu. Le chef de l'État burundais a aussi assuré que les troubles ne concernaient que quelques quartiers de Bujumbura, mais que 99% du Burundi était en paix. « Je vous promets que les élections vont bien se dérouler », a-t-il ajouté. Les manifestants morts et les pressions internationales n'ont rien changé à Bujumbura, où la tension s'accroît avec le dépôt de cette candidature. Conformément aux accords d'Arusha, le président burundais a déjà effectué 2 mandats et ne peut en effectuer un 3e. « Faux », répondent ses partisans, qui affirment que la constitution burundaise ne tient pas compte du premier mandat au suffrage indirect qui a porté au pouvoir Pierre Nkurunziza en 2005. Ce vendredi, les manifestations se sont poursuivies dans la capitale burundaise.
Nicolas Pinault. En RDC, au moins 8 personnes ont été tuées dans des affrontements entre Pygmées et Bantous à Manono, dans la province du Katanga. Des précisions avec Eddie Isango.
Plusieurs blessés ont été enregistrés dans ces affrontements. L'abbé Moïse Kilouba, coordonnateur de la société civile à Manono, a indiqué que les 8 morts ont été comptés du côté des Bantous. Les bilans étaient certains pour ce qui est des Pygmées, mais ce qui est sûr, selon l'abbé Kaloubi, est que certains Pygmées ont aussi été blessés. D'après lui, les affrontements ont opposé mardi les milices appartenant aux 2 groupes ethniques. La police, qui n'a pas pu intervenir, reconnaît que les affrontements sont récurrents entre Bantous et Pygmées dans la zone. La société civile a interpellé les autorités congolaises pour arrêter ces conflits ethniques qui datent de très longtemps et qui a fait un nombre inconnu de morts.
Eddie Isango lutte contre Boko Haram. Le ACR s'inquiète de la décision du Niger de forcer des milliers de personnes à quitter les îles du lac Tchad après la sanglante attaque du groupe islamiste nigérien dans cette région le mois dernier. Les précisions de Chérubin Dorsil.
Karl Steinecker, représentant du HCR au Niger, dit que les îles du lac Tchad, dont le gouvernement nigérien a ordonné l'évacuation, abritent de nombreux pêcheurs nigériens et nigérians. Si les civils nigériens peuvent repartir vers des villes de leur pays, les Nigérians, eux, n'ont pas d'autre choix sinon traverser la frontière. Les moyens de vie des gens sont détruits parce qu'on leur a dit qu'ils ne peuvent plus vivre et travailler dans le lac Tchad. Et on leur a dit, nous allons vous ramener dans votre pays. De quelles autres options disposent-ils? S'est interrogé Karl Steinecker. Les travailleurs migrants originaires du Nigeria sont évacués par camion vers l'État nigérian de Yobe, qui a été ravagé par l'insurrection de Boko Haram. C'est un retour risqué, déplore le représentant du HCR au Niger. Même si ce sont des migrants, il faut se demander, est-il approprié de les renvoyer chez eux et est-ce la bonne manière de le faire? Et la réponse dans les 2 cas serait non. Quelques 16 000 réfugiés nigérians restent au Niger, ayant fui les attaques de Boko Haram contre leur village.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Burkina Faso, le Conseil constitutionnel a déclaré irrécevable cette semaine la requête des partisans de l'ex-président Blaise Compaoré, jugeant illégale la nouvelle loi électorale adoptée le mois dernier qui disqualifie tous ceux qui ont soutenu le projet de modification de la Constitution en 2014. Pour les raisons invoquées par la Haute Cour, écoutons Dieudonné Zungrana. Il est le directeur de publication du journal Aujourd'hui au Faso.
Les raisons invoquées par le Conseil constitutionnel, par les grands sages, c'est que la requête est signée pour l'ensemble des conseils des députés par Maître Anassouri Ouattara et que Maître Anassouri Ouattara ne figure pas au nombre des autorités habilitées par la Constitution à saisir le Conseil constitutionnel pour le contrôle a priori de la constitutionnalité d'une loi. Donc, en d'autres termes, les requérants devraient signer eux-mêmes leurs documents conformément à l'article 157 de la Constitution. Ça veut dire que c'est pour juste de forme que la requête a été déclarée irrecevable parce que les signataires n'ont pas signé.
Est-ce que ce dossier est clos donc?
Ben bon, ils disent qu'ils vont lutter par d'autres moyens, mais on ne sait pas comment, parce que vous savez même que la loi a été promulguée et quand le Conseil constitutionnel rejette, en tout cas une requête, je ne vois pas comment ils vont encore se pourvoir. Donc ça va être très difficile.
Voilà, Dieudonné Zungrana, directeur de publication du journal Aujourd'hui au Faso. Je l'ai joint à Ouagadougou. Au Togo, plusieurs sites internet critiques du régime du président Faure Gnassingbé ne sont pas accessibles depuis Lomé. Déjà avant la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, les services sociaux comme Facebook n'étaient pas disponibles. Le point avec Ferdinand Haïté, le président de SOS Journalistes en danger. Il est à Lomé.
L'Internet a été en partie perturbé avant la proclamation des résultats, notamment le 26 et le 27. Donc il y a eu des difficultés d'accès sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, WhatsApp. Les opérateurs et les fournisseurs d'accès à l'Internet au Togo ont tout fait pour perturber l'accès à ces réseaux sociaux. Maintenant, après la proclamation des résultats, c'est-à-dire que le 28, le 29, jusqu'à ce jour, plusieurs sites Internet ont été rendus inaccessibles. Une dizaine de sites Internet sont actuellement inaccessibles à partir du Togo. Lorsqu'on prend le profil de tous les sites qui ont été suspendus à ce jour ou qui sont accessibles à ce jour, on peut en conclure que c'est un acte volontaire parce que tous ces sites sont des sites critiques vis-à-vis du pouvoir de Lomé.
Voilà, au Mali, le vérificateur général a rendu son rapport sur la corruption en 2013 et 2014. Il a remis en main propre au président Ibrahim Boubacar Keïta, Morgan Guiriek.
Ibrahim Boubacar Keïta avait affirmé en présentant ses vœux que 2014 serait l'année de la lutte contre la corruption. Amadou Ousmane Touré, le vérificateur général, a pris ses mots à la lettre. Son rapport est très précis. En deux ans, 153 milliards de francs CFA ont manqué dans les caisses de l'État malien à cause de la corruption et de la mauvaise gestion. Presque aucun service n'est épargné. Le fisc, les douanes, les domaines, les services sociaux, sanitaires et même l'éducation. La corruption gangrène l'administration alors que le pays est sous perfusion de la communauté internationale. Ce dernier rapport finira-t-il dans des tiroirs poussiéreux comme les précédents? La balle est maintenant dans le camp du président malien.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a eu des consultations aujourd'hui à Paris avec son homologue français Laurent Fabius avant de participer à une cérémonie commémorant le 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Le chef de la diplomatie américaine doit avoir par la suite des entretiens avec les ministres des Affaires étrangères des pays du Conseil de coopération du Golfe arabo-persique, notamment au sujet de la sécurité régionale. Kerry va participer, préparer sur le terrain pour le prochain sommet entre le président Barack Obama et les leaders de l'organisation la semaine prochaine à la Maison Blanche. Au moins 7 personnes, dont des ambassadeurs de Norvège et des Philippines au Pakistan, ont été tuées ce vendredi dans le crash d'un hélicoptère militaire transportant des diplomates. C'est ce que rapporte l'AFP. Selon les autorités, l'appareil s'est écrasé sur une école d'une région reculée de l'Himalaya pakistanais. Les talibans pakistanais, en quête permanente de publicité, ont revendiqué comme une attaque ce crash survenu dans un secteur hautement militarisé où ils n'ont pas de présence connue. Selon l'AFP, cette revendication n'a été étayée pour l'heure par aucun autre témoignage. Et puis venons-en maintenant à ces élections en Grande-Bretagne. Victoire des conservateurs du Premier ministre David Cameron aux élections parlementaires. Les médias s'attendent à ce qu'ils obtiennent 326 sièges, soit plus que la moitié absolue au Parlement de Londres. Le parti travailliste du leader d'opposition Ed Miliband est en deuxième position, très loin derrière avec 230 sièges. Ed Miliband a d'ailleurs annoncé sa démission de la tête du parti travailliste britannique. Et pour terminer, quelques mots de sport. Les matchs de demi-finale du championnat de basketball nord-américain reprendront ce soir et samedi. Le temps pour les Washington Wizards d'aviser. En effet, ils viennent d'essuyer un coup dur en perdant leur meneur de jeu, John Wall. Wall est tombé lors des matchs des demi-finales de la conférence Est face aux Hawks d'Atlanta. Il souffrait du poignet gauche et les examens ont révélé 5 petites fractures au niveau du poignet de la main. C'est tout donc pour ce bulletin d'information. Rendez-vous dans moins d'une heure pour de nouvelles informations.
Soyez au cœur de l'info sur VOA.